Si seulement ce Lord Bromley je ne sais quoi, cette foutue Altesse Sérénissime, avait bougé son cul pour nous rejoindre à Calcutta un jour plus tôt et nous avait aidé à graisser des pattes pour expédier ces foutues caisses à ce foutu dépôt de fret. Calcutta est une ville terrifiante, avec ses morts en leur linceul, évoqués par Kipling, gisant à nos pieds lors d'une promenade vespérale. Non pas des morts en vérité, mais des gens enveloppés dans des draps et couchés à même ce qui tient lieu de trottoir. Et partout des odeurs d'encens, d'épices, de pisse. L'odeur du bétail, et celle pas déplaisante, de la sueur et de la laine des foules, se mêle à la fumée parfumée des feux de bouse. Tous les hommes à la pommade nous observent avec curiosité, dédain ou une colère ouverte, tandis que le regard des femmes, même celui des musulmanes voilées de noir de la tête aux pieds, est attrayant, attirant et pour moi rempli de promesses sensuelles. Nous ne sommes que le 22 mars en 1925. La terrible chaleur estivale précédant la mousson et les violentes pluies de la fin d'été sont encore loin. Et pourtant, l'air de Calcutta m'enveloppe comme une couverture mouillée. Telles sont du moins mes impressions lors de nos deux premiers jours et demi ici. Tout m'est étranger. Bien que j'ai traversé l'Atlantique sur un paquebot l'année dernière pour relier Boston à l'Europe, les 5 semaines de voyage à bord du HMS Caledonia, de Liverpool à Calcutta, m'ont paru 100 fois plus exotiques. Les premiers jours ont été éprouvants. Les remorqueurs ont peiné à nous faire sortir du port de Liverpool à cause du vent et des vagues. Et j'ai été surpris de découvrir que de nous trois, j'étais le seul à ne pas souffrir du mal de mer. Le tangage et le roulis étaient pour moi comme un jeu, un simple défi d'équilibre lorsque je circulais dans le navire ou montais sur le pont de bois où je courais mes 20 km quotidiens sur une piste instable, sans jamais ressentir la nausée qui avait empoisonné le début du voyage de Jean-Claude et du diacre. S'il n'y avait eu la lenteur ennuyeuse du passage du canal de Suez et la tempête dans l'ouest de la Méditerranée qui m'a confiné dans ma cabine pendant une journée entière, le voyage à Calcutta aurait été une expérience parfaitement plaisante. À Colombo, une petite ville blanche semblant assiégée par une jungle féroce et impénétrable, j'ai acheté de la dentelle que j'ai envoyée à ma mère à Boston. Tout était nouveau et excitant. Et je savais, sans l'apprécier pleinement, que c'était un prélude. Les expéditions de 1921, 1922 et 1924 sont toutes passées par Calcutta pour rejoindre Darjeeling, leur point de départ officiel, mais comme elles étaient financées et soutenues par le comité de l'Everest, l'Alpine Club et son association sœur, la Royal Geographical Society, il y avait toujours eu des correspondants à Calcutta prêts à s'occuper des caisses de matériel et de provisions, de sorte qu'à l'arrivée des alpinistes, tout ce dont ils avaient besoin était déjà chargé dans le train pour Darjeeling ou en passe de lettres. Évidemment, notre expédition étant secrète et illicite, nous n'avions personne pour nous attendre à Calcutta. Le diacre, responsable du budget octroyé par Lady Bromley, du moins jusqu'à la reprise en main par le cousin Reggie, ne tarde pas à nous apprendre le mot hindi « bandobast », signifiant « arrangement ». À Calcutta, où la plupart des gens parlent le bengali, pas le hindi, bien que le mot y soit tout de même utilisé, en raison sans doute de l'universalité du concept dans toute l'Inde multilingue et multiethnique, « bandobast » a plutôt le sens du bakshish moyen-oriental, le pot de vin nécessaire pour obtenir quoi que ce soit. Mais puisque le diacre a participé à 2 précédentes expéditions de l'Alpine Club et s'est intéressé à tous leurs aspects, dont le graissage des rouages administratifs pour faire avancer le mouvement à Calcutta, puis plus tard à Darjeeling et au Tibet, du moins l'espérons-nous, Jean-Claude et moi, nos 12 lourdes caisses ont été transportées des docks jusqu'au dépôt de fret de la gare en début de ce 3e après-midi de notre séjour à Calcutta. Dans quelques heures, nous prendrons le Darjeeling Mail, un train de nuit partant de la gare de Sildah, à l'extérieur de la ville, mais n'allant pas plus loin que Siliguri, une petite gare de commerce au milieu de nulle part, où nous devrions arriver à 6h30 demain matin. De là, nous embarquerons dans le Darjeeling Himalayan Railway, un train-jouet circulant sur des rails étroits et montant péniblement à plus de 2000 mètres d'altitude dans les contreforts méridionaux de l'Himalaya, pour atteindre Darjeeling, où le vice-roi des Indes passe ses étés. En tout, nous parcourrons environ 600 km en train, et le diacre nous informe que l'air sera sans doute trop chaud et poussiéreux pour que nous puissions dormir, du moins dans le Darjeeling Mail. Peu m'importe, je n'ai pas l'intention de beaucoup fermer l'œil durant le voyage. Le matin de notre arrivée, nous recevons un télégramme du cousin Reggie. Rendez-vous hôtel Mont Everest Darjeeling, mardi 24 mars, je prendrai le commandement de l'expédition à partir de là. L. R.K. Bromley Montfort. Le commandement de l'expédition, mon cul, dit le diacre, froissant le télégramme et le jetant par terre.
Que signifie le L ?
Demande Jean-Claude après avoir ramassé et lissé la boule de papier. Lord, je suppose, répond le diacre en mordant si fort dans la tige de sa pipe que je m'attends à l'entendre se briser. Lord Reginald K. quelque chose Bromley Montfort.
Pourquoi garde-t-il le Bromley dans son nom ?
Demandai-je. Les us et coutumes de l'aristocratie anglaise restent des mystères pour moi.
Comment voulez-vous que je le sache, bon sang ?
Réplique le diacre. Je l'ai rarement vu d'aussi mauvaise humeur. Choqué, Jean-Claude et moi faisons tous deux un pas en arrière.
« Si seulement ce Lord Bromley je ne sais quoi, cette foutue Altesse Sérénissime, avait bougé son cul pour nous rejoindre à Calcutta un jour plus tôt et nous avait aidé à graisser des pattes pour expédier ses foutues caisses à ce foutu dépôt de fret, c'est son pays pourri, sa culture, où l'on doit recourir à la corruption pour obtenir quoi que ce soit et où personne n'est capable d'être à l'heure au moindre rendez-vous. » Alors il est où ce commandant de l'expédition quand on a besoin de lui ?
Jean-Claude et moi échangeons un coup d'œil et je crois que nous pensons la même chose. Quand George Mallory est venu ici l'année dernière, il n'a pas eu de vraie responsabilité avant que le chef de l'expédition, George Bruce, ne tombe malade durant la randonnée de 5 semaines à travers le Tibet pour rejoindre le camp de base. Vu les problèmes cardiaques de Bruce et ses difficultés d'adaptation à l'altitude dès le passage des cols tibétains, bien avant que l'Everest ne soit en vue, le médecin lui a ordonné de rentrer à Darjeeling. Le colonel Norton a alors assuré le commandement de toute l'expédition, laissant sa place de responsable des grimpeurs à Mallory. Mais s'il a dû dès lors se charger de la logistique de l'ascension, Mallory n'assumait pas les lourdes responsabilités administratives de l'expédition. Il n'avait pas à louer les mulets et embaucher les porteurs, à satisfaire aux exigences du gouvernement tibétain, ni, plus pénible encore, à gérer les personnalités, les maladies et les faiblesses de l'équipe d'alpinistes britanniques et de sa centaine de porteurs. Jean-Claude et moi nous dévisageons après le soudain éclat du diacre. Comme je l'ai dit, depuis que je le connais, jamais je n'ai entendu Richard Davis Deacon réagir ainsi. Lorsqu'il est confronté à un problème, il se contente en général de hausser les épaules et d'esquisser un sourire ironique avant d'allumer sa pipe. Et mon ami français et moi arrivons sûrement au même constat. Pendant que nous profitions tous deux du voyage en bateau, du moins dans le cas de Jean-Claude quand il n'était pas en proie au mal de mer, le diacre tentait de régler 1001 détails financiers, administratifs, logistiques ou techniques non résolus. Au cours de la traversée sur le HMS Caledonia, bien que le diacre ait pratiqué quelques exercices quotidiens pour rester en forme, il n'a jamais eu le temps d'aller courir des kilomètres sur le pont comme je l'ai fait tous les jours. En général, on le trouvait assis derrière le petit bureau de sa cabine de luxe, en train d'étudier des cartes topographiques de l'Everest et de ses environs, des photographies et les comptes rendus publics et privés des 3 précédentes expéditions britanniques, dont la 20aine de carnets qu'il avait remplis lui-même en 1921 et 1922, avant de perdre les faveurs de Mallory. Au moment de quitter Calcutta, nous ne sommes qu'à la première étape de notre voyage, et le diacre est déjà épuisé. Mais il n'y a pas que cela, je m'en rends compte. Le télégramme arrogant de ce Lord Bromley Montfort l'a mis dans une rage folle. Ce cousin Reggie était censé financer notre expédition de Darjeeling jusqu'à l'Everest, pas en prendre le commandement. Je comprends la réaction du diacre et redoute sérieusement la confrontation entre les deux hommes dans les prochaines 48 heures. Toute notre aventure dans l'Everest pourrait en être compromise. Ce ne serait pas la première expédition en montagne qui échouerait prématurément pour cause de conflit entre deux potentiels leaders. Ce ne serait pas non plus la dernière, comme j'allais m'en rendre compte au cours des 67 années suivantes.
Mais enfin, nous quittons la gare de Silda dans la chaleur infernale d'un wagon de première classe bruyant et poussiéreux, pour cette première étape également chaude, bruyante et poussiéreuse, jusqu'à Siliguri. Jamais je n'ai contemplé de paysage plus monotone que celui que nous traversons. Des rizières interminables, seulement interrompues par des plantations de diverses espèces de palmiers. Dans le train, c'est le chaos, et des passagers sans billets s'accrochent à toutes les fenêtres et portières et sur les toits de tous les wagons, sauf celui des premières classes. Tandis que la nuit tombe, des milliers de lumières apparaissent dans cette immense plaine, laissant deviner d'innombrables villages. 1 million de gens semblent se préparer à dîner en même temps, la plupart sur des feux dans ou près de leur maison à la porte ouverte. À en juger par l'odeur qui envahit notre compartiment malgré sa fenêtre close, dans l'air à peine brassé par les petits ventilateurs électriques qui tournent lentement sur les murs, il paraît évident, et le diacre le confirme, que la plupart de ces feux sont alimentés par de la bouse de vache sèche. Le diacre ne s'excuse pas pour son mouvement d'humeur à la gare de Calcutta, mais alors que notre train de nuit s'enfonce dans la campagne et l'obscurité ponctuée d'une multitude d'autres points lumineux, son attitude suggère la contrition et la gêne. Nous dînons de poulet rôti fourni par l'hôtel et d'un vin blanc tout à fait correct dans le petit compartiment où nous dormirons tous les trois sur des couchettes pliantes, puis l'odeur du tabac de pipe du diacre se mêle au parfum de bouse de l'air indien humide. L'effet en est étrangement apaisant. Nous parlons peu, absorbés par les tableaux que nous apercevons brièvement, tandis que le petit train, lancé maintenant à vive allure, passe près de villages et de maisons éclairées par des feux ou parfois des lanternes. Nous montons un petit peu, mais nous savons que le Darjeeling Himalayan Railway que nous emprunterons demain matin devra se hisser, et nous hisser, du niveau de la mer jusqu'à une altitude de 2000 mètres. La ville de Darjeeling, ainsi que la plantation de thé des Bromley-Montfort, se trouve dans la chaîne du Mahabharat, également connue sous le nom d'Himalaya inférieur. La chaleur nous oblige finalement à ouvrir les fenêtres et à laisser entrer davantage de poussière, de fumée et de cendres, mais l'air humide se rafraîchit un peu alors que nous traversons des plantations de cocotiers et des bananeraies. Lentement, le parfum de bouse de vache laisse place à l'odeur voluptueuse et tropicale des palmiers irrigués. Nous avons quitté Calcutta depuis 3 ou 4 heures, quand le Darjeeling Mail Express traverse à grand fracas le célèbre pont Sara au-dessus du Padma. Après cela, il n'y a plus que le noir, percé seulement par les faibles constellations des centaines de villages disséminés au loin dans la plaine. Vers 23 heures, nous sommes tous les trois installés sur nos maigres couchettes pliantes, et au bruit que font mes camarades, je sais qu'ils dorment à point fermé. Les pensées et les doutes m'assaillent un moment. La rencontre avec Lord Bromley-Montfort à l'hôtel du Mont Everest demain soir ou mardi matin a des chances d'être aussi désastreuse que je le crains. Puis je finis par m'endormir, bercé par le balancement du train et le son apaisant de ses roues d'acier sur les rails. De bonne heure le lendemain matin, après un bon petit déjeuner à l'occidental arrosé de café et de thé dans une salle de la gare de Siliguri réservée aux Britanniques et autres voyageurs blancs, nous allons prendre notre correspondance pour Darjeeling qui part toujours 35 minutes après l'arrivée du train postal à Siliguri. Après 10 kilomètres sur cette ligne à voie étroite, le train est si petit qu'on dirait vraiment un de ces modèles miniatures dont rêvent les jeunes garçons. Nous arrivons à la gare de Sukna, puis commençons la sinueuse ascension, terriblement raide et terriblement lente, jusqu'à Darjeeling. Les parfums humides de la plaine Bengali cèdent bientôt la place à une brise rafraîchissante, charriant le parfum végétal des bois qui ponctuent les rangées ondulantes de théiers plantés sur les collines. Nous devions arriver à midi, mais deux chutes de pierre sur la voie nous font prendre plusieurs heures de retard. Le mécanicien et le chauffeur du train jouet réquisitionnent des dizaines de passagers de troisième, voire de deuxième classe, pour aller dégager les rochers détachés des parois sous l'effet de la pluie, mais Jean-Claude et moi allons aussi leur donner un coup de main, maniant le pied de biche pour soulever les blocs de pierre. Le diacre se tient à l'écart, bras croisés, l'air furieux. « Si vous vous blessez le dos, les jambes ou les mains maintenant, dit-il entre ses dents serrées, vous aurez gâché vos chances d'escalader l'Everest pour rien.
Laissez les autres passagers s'en charger, bon sang.
J.C. et moi sourions en signe d'assentiment, mais l'ignorons et poursuivons notre tâche sous la surveillance paresseuse du mécanicien, du chauffeur et des contrôleurs. Ces derniers ont ramassé tous nos tickets avant le départ du train, puisqu'il est impossible de passer d'un minuscule wagon à un autre, et n'ont rien fait d'autre depuis. De temps à autre, l'un d'eux crie des ordres ou des critiques en bengali, en hindi ou dans un quelconque dialecte. Quand enfin la voie est dégagée, J.C. et moi titubons jusqu'à notre wagon. 20 kilomètres plus loin, nous sommes arrêtés par un nouvel éboulis. Des rochers encore plus gros bloquent le passage. Forte pluie, dit le mécanicien, haussant les épaules en regardant les falaises d'où coule un millier de petites cascades. Une fois encore, Jean-Claude et moi allons aider les passagers des deuxième et troisième classes à dégager plusieurs tonnes de rochers. Le diacre reste ostensiblement à sa place et fait un somme. Nous arrivons donc à Darjeeling avec des heures de retard, non pas à midi comme prévu, mais au crépuscule. Et sous une pluie battante qui nous a empêchés d'apercevoir les sommets du Kanchenjunga ou de tout autre pic himalayen visible en général, d'après le diacre, à l'approche de la ville. Deux d'entre nous ont mal partout, après avoir déplacé des kilos de pierre, les doigts meurtris et rouges de sang. Le troisième membre de notre groupe est rouge, lui aussi, de colère contre nous. Nous nous dirigeons vers le cinquième et dernier wagon du train, le prétendu wagon de marchandises, qui n'est en réalité qu'une plateforme sur laquelle nos nombreuses caisses et malles ont été attachées à la hâte et recouvertes de bâches, et nous demandons comment nous allons acheminer tout ça à l'hôtel du Mont Everest. Les membres des expéditions, en particulier leurs leaders, sont souvent invités à séjourner à la maison du gouverneur en haut de la colline, mais notre aventure étant parfaitement officieuse, nous voulons rester invisibles. D'où l'hôtel. Soudain, comme par miracle, un homme grand émerge du déluge abrité sous un parapluie. Une dizaine de porteurs le suivent, sortant de trois camions Ford à plateau. Le quai de la gare n'a pas d'auvent. La pluie est froide ici en altitude et de la vapeur s'échappe du capot des camions. L'homme porte une tunique de coton grège d'allure raffinée sous un long gilet de laine sans manches. Il est coiffé d'un élégant bonnet soigneusement ajusté, comme je n'en ai jusqu'ici pas vu en Inde. Il ne semble ni indien ni tibétain. Pas assez asiatique pour un tibétain, trop grand et pas assez brun pour un indien. Et, s'il pourrait être l'un de ces sherpas légendaires dont j'ai tant entendu parler, je sais que les sherpas sont le plus souvent petits, alors que les yeux marrons de cet homme sont au même niveau que les miens. Sans dire un mot ni faire le moindre geste, il dégage une grande impression de dignité et d'assurance. Il possède à l'évidence ce que l'on appelle de la présence. Le diacre s'avance sous la pluie qui dégouline de son chapeau de feutre, et l'homme tend son parapluie pour lui offrir la protection du grand cercle noir. « Vous êtes envoyé par Lord Bromley-Montfort ? » demande le diacre. L'homme le dévisage. De longues secondes silencieuses passent sous la pluie battante. Le diacre pointe le doigt vers sa poitrine et reprend. « Moi, Richard Davis Deacon. » Puis il montre la poitrine de l'homme. « Vous ?»«
Passang. »
La voix est si douce que je l'entends à peine sous le martèlement de la pluie contre le tissu du parapluie.
« Passang quoi ?» demande le diacre.
Passang Sirdar.
Je m'avance à mon tour, main tendue.
Ravi de vous rencontrer, Passang Sirdar.
Le grand homme se contente d'étendre un peu plus le parapluie pour m'offrir une certaine protection.
Non, non, Jake, dit le diacre, presque obligé de crier. Sirdar signifie plus ou moins chef. Ce doit être le chef des porteurs. Pour l'instant, ce sera donc juste Passang.
Il se retourne vers l'homme.
Passang, pouvez-vous emporter ça ?
Et il montre l'état de bagages sous les bâches que Jean-Claude et moi avons seulement commencé à détacher.
À l'hôtel du Mont Everest.
Le diacre fait un geste vague en direction de la ville de Darjeeling qui s'étage sur la colline, presque invisible dans l'obscurité pluvieuse, et répète plus fort :
L'hôtel du Mont
Everest.
Ça ne devrait pas poser de problème, monsieur Deacon.
Lui répond Passang avec un parfait accent britannique. La voix grave et douce semble tout aussi aristocratique que celle du diacre, voire encore plus.
Il ne nous faudra pas plus de 5 minutes.
Passang me tend le parapluie et s'éloigne pour crier des ordres en hindi et en bengali à la dizaine de porteurs qui attendent sous le déluge. Il se hâte d'aller détacher les caisses et les charge en vitesse à l'arrière des camions. Tous trois nous serrons tant bien que mal dans la cabine d'un des véhicules dont Passang a pris le volant. JC est à moitié installé sur mon genou gauche et je suis collé à la portière. La pluie s'intensifie et comme le seul essuie-glace qui fonctionne ne dégage qu'un tout petit triangle devant Passang, je ne vois strictement rien devant, derrière ou sur le côté, tandis que le camion cahote, brinque-balle et fait grincer ses vitesses en prenant une série de virages en épingle à cheveux pour gravir une pente aussi raide qu'invisible. J'ignore à quoi ressemble Darjeeling et je ne le saurai pas ce soir. Aucun de nous quatre n'ouvre la bouche durant le trajet. Je m'attendais à ce que l'hôtel du Mont Everest soit un vieux bâtiment de pierre au milieu d'autres vieux bâtiments de pierre, du gris au milieu du gris. Au lieu de quoi, nous nous arrêtons devant un superbe manoir victorien de 3 étages, tout illuminé, perché en haut d'une colline. Tout à fait conforme à l'image du vieux Londres que pourrait se faire un Américain avec ses pignons, ses chevrons et ses tours, sa porte cochère avec son allée de briques et ses colonnes de style élisabétain, sa tourelle en bardeaux s'élevant à droite de l'entrée principale, son jardin traversé d'un sentier en gravier blanc, planté de petits arbres feuillus devant, pas les grands banyans à troncs multiples que nous avons vus lors de notre ascension dans le mini-train, et d'élégants pins derrière. Alors que nous atteignons l'entrée de l'hôtel, la pluie s'arrête brusquement, comme si quelqu'un avait fermé un robinet. La pleine lune nous apparaît derrière des nuages qui filent à toute allure et illuminent de hauts sommets enneigés au nord, à l'est et à l'ouest derrière l'hôtel.
Nous sommes si proches que ça de l'Himalaya, dis-je alors que nous nous reculons pour regarder, par-delà les hauts vents de l'hôtel, ce qui, d'après moi, ne peut être que des nuages et non pas des cimes.
Pas si près de Darjeeling.
Le clair de lune sur la neige et la glace, dit Jean-Claude. Ce sont bien des pics et des arêtes.
Malgré l'heure tardive, 4 grooms magnifiquement vêtus sont sortis du lobby et emportent à présent nos bagages personnels. Quelques valises, mais surtout des sacs à dos et des sacs de voyage. Le diacre insiste pour que nous remontions dans le camion et accompagnions Passang et les porteurs de l'autre côté, afin de nous assurer que notre matériel soit entreposé dans un endroit sûr, en l'occurrence un grand bâtiment qui devait être autrefois les écuries de l'hôtel du Mont Everest. Passang supervise les porteurs qui transportent nos caisses dans 3 larges stalles pourvus de hautes portes battantes.
« Je pense que l'un de nous devrait rester ici garder un œil sur « commence le diacre ».
Mais, une fois toutes nos caisses comptées, inspectées et recouvertes de leurs bâches, Passang referme la porte des stalles, pose un lourd cadenas sur chacune et en donne sans un mot les clés au diacre.
Tout devrait être en sécurité pour la nuit, monsieur Deacon, et j'ai chargé un employé de la plantation en qui j'ai toute confiance de monter la garde, au cas où. On ne sait jamais.
Nous retournons à l'entrée de l'hôtel, au milieu d'une myriade de parfums entêtants. Celui des feuilles et des herbes mouillées, de l'humus, des fleurs des jardins de part et d'autre de l'allée, des mousses humides le long d'un ruisseau coulant sous un pont en arc, de l'écorce dont est faite l'allée là où s'arrête le revêtement de briques et de pavés, et, sans doute le plus puissant, le parfum apporté par la brise des montagnes, des centaines de milliers de théiers poussant sur des dizaines de milliers de terrasses au flanc des collines illuminées par la lune qui entoure la ville de Darjeeling. Des lumières s'allument partout, dont beaucoup sont électriques. Le responsable de l'hôtel, un Indien vêtu d'une jaquette et d'un haut col à la mode du 19e siècle, paraît très excité de nous voir arriver dans son établissement. Le vaste lobby semble étrangement désert. Il n'y a que les grooms, Passang et nous trois.
« Oui, oui, oui !»
dit le directeur avec son accent indien très prononcé, en ouvrant son immense registre qu'il fait pivoter vers nous en nous tendant un beau stylo.
La vieille patine du comptoir d'acajou lui donne presque des reflets dorés. L'expédition Bromley, oui, poursuit-il, tout sourire. Nous souhaitons la bienvenue à la très estimée expédition Bromley-Montfort. Le regard assassin du diacre réussit presque à effacer l'immense sourire du directeur, mais pas tout à fait.
Nous ne sommes pas l'expédition Bromley, dit-il entre ses dents. Notre groupe n'a pas de nom. S'il en avait un, ce serait l'expédition Deacon Clairoux Perry.
Oui, bien sûr, oui, dit le directeur, lançant un regard nerveux à Passang, qui ne scie même pas. La moitié de notre étage supérieur, l'aile Mallory, comme nous l'appelons désormais, nos meilleures suites, monsieur, oui, a été réservée pour l'expédition Bromley.
Le diacre soupire. Nous sommes tous fatigués.
Il signe le registre, tend le stylo à J.C. qui signe à son tour et me le passe. Les grooms en livrée se précipitent pour prendre nos valises et nos sacs. Nous nous serrons tous les trois dans l'ascenseur avec l'un d'eux, une vieille cabine en fer forgé, un moteur électrique alimenté Dieu sait comment, et un système compliqué de chaînes et d'engrenages. Un liftier commence à fermer les portes coulissantes.
« Juste un instant, » dit le diacre,
et il retourne vers le bureau de réception. Le directeur se met au garde à vous comme un officier prussien lors d'une revue de l'ancien Kaiser.
« Lord Bromley, Montfort, est-il déjà arrivé ?» demande le diacre.
Il a la voix enrouée par un début de rhume ou simplement la fatigue.
« Je dois le rencontrer ce soir même, s'il est réveillé. »
Le grand sourire du directeur se fige, se mue en affreux rictus, et tandis qu'il hoche et secoue la tête en même temps, oui, non, ses yeux filent vers l'endroit où Passang est resté immobile et silencieux au milieu de l'agitation des grooms avec les bagages.
« Le rendez-vous est prévu pour demain matin, » déclare Passang.
« Oui, confirme le directeur soulagé. « La salle du petit-déjeuner est réservée pour... Oui, demain matin. » Le diacre secoue la tête, passe la main dans ses cheveux clairsemés et vient nous rejoindre dans l'ascenseur.
« Nous nous apprêtons peut-être à gravir la plus haute montagne du monde, mais ce soir, nous sommes trop épuisés pour monter deux étages jusqu'à nos luxueuses suites. »